Radio Kapi. Oh, Kapi.
Au sommaire ce matin, la conférence épiscopale nationale du Congo appelle les Congolais à s'approprier le processus électoral en cours. C'est à travers un message intitulé « Peuple congolais, réveille-toi de ton sommeil ». Un message fait à l'issue de la 60e Assemblée Générale de la CENCO tenue à Lubumbashi dans les Haut-Katanga. Le chef de l'État a lancé hier vendredi les travaux du projet d'urgence pour la résilience urbaine de Kananga. À hauteur de 100 millions de dollars financés par la Banque mondiale, le projet vise à lutter contre les érosions qui menacent la ville de Kananga. L'invité de ce journal est l'inspecteur principal de la province éducationnelle Tanganyika 1. Jean-Pierre Soumbou parle des préparatifs de l'édition de l'examen d'État 2022-2023 dans ce secteur. Mesdames, Messieurs, bonjour. Les évêques, membres de la Conférence épiscopale nationale du Congo, ont dans un message intitulé « Peuple congolais, réveille-toi de ton sommeil », appelé la population à s'approprier le processus électoral en cours. Ils l'ont fait savoir hier vendredi à Lubumbashi, au cours d'une conférence de presse animée par Mgr Donatien Cholet, secrétaire général de la CENCO. Pour lui, la CENI doit rassurer toutes les parties prenantes avant l'organisation des élections que les princes de l'Église catholique veulent crédibles, libres, inclusives, transparentes et apaisées. On écoute Mgr Donatien Cholet, secrétaire général de la CENCO, au micro de Jean Gandou.
Les évêques ont commencé par reconnaître les efforts faits par la CENI, mais les évêques reviennent sur deux recommandations majeures. La mise en place d'un cadre de concertation qui serait un espace tripartite, majorité, opposition, société civile. On peut gérer ça en petit groupe comme on l'a fait au dialogue de la CENCO. Un espace où la CENI rassurerait les gens par rapport à certaines inquiétudes, notamment la question des centres d'inscription qu'on n'a pas retrouvés sur le terrain. La question des matériels électoraux sensibles qu'on a retrouvés entre les mains des personnes non qualifiées. C'est dans un cadre comme ça que la CENI peut peut-être arriver à convaincre qu'il y a plus de peur que de mal. Deux, et c'est très important, c'est l'audit externe du fichier électoral par un organisme international spécialisé en la matière. Parce que tel que les choses se sont faites jusque-là, ce n'est pas rassurant. À la population, les évêques rappellent, le temps est venu pour que nous choisissions nous-mêmes nos dirigeants. Les élections, c'est cette occasion qui nous est donnée pour refaire la confiance à ceux qui ont bien travaillé, mais aussi pour sanctionner tous ceux qui se sont servis au lieu de servir le pays.
Situation sécuritaire dans l'est de la RDC, un grand sommet des chefs d'État des différentes organisations impliquées dans les processus pour le retour de la paix en RDC se tiendra mardi prochain à Luanda, capitale angolaise. Avant cette rencontre des chefs d'État, une réunion d'experts quadripartites de la communauté d'Afrique de l'Est, de la communauté économique des États de l'Afrique centrale, de la conférence internationale sous la région des Grands Lacs et de la communauté de développement de l'Afrique australe sous les auspices de l'Union africaine s'ouvre ce samedi à Luanda. À l'ordre du jour, la coordination et l'harmonisation des réponses régionales aux conflits dans l'Est de la RDC. Qu'elle écoutait pour plus de détails.
De temps fort sont programmés pour la journée de ce samedi. Pour la première séance, il sera question de présenter les différentes interventions et processus existants et marches à suivre. Ces travaux visent à identifier les initiatives de paix, déploiement existants par les parties prenantes et l'ONU afin de déterminer les domaines qui nécessitent un renforcement de la coordination et harmonisation. L'objectif principal est de convenir d'une approche concertée, coordonnée et globale qui sera adoptée par toutes les parties prenantes ainsi que par l'Union africaine et l'ONU en ce qui concerne l'Est de la RDC. Second moment important de la journée, la séance portera sur l'élaboration d'un schéma directeur conjoint consolidé assorti d'une vision claire du travail entre les organismes régionaux, l'Union africaine et l'ONU, ainsi que d'un calendrier convenu pour permettre une coordination et une harmonisation rapide des efforts. Signalons que l'objectif de ce sommet quadripartite est d'adopter une approche stratégique d'une réponse harmonisée, coordonnée, robuste et holistique à la crise sécuritaire prolongée dans l'est de la RDC.
Affaire Bukangalonzo, Matata Mponyo récuse le procureur général près la Cour constitutionnelle, comme il a fait également avec le président du Sénat. L'ancien premier ministre accuse Jean-Pierre Mukolo de demander à son co-accusé Patrice Kitebi, ancien ministre délégué aux finances, de témoigner à charge du sénateur. Selon nos sources proches de la Cour constitutionnelle, l'action publique à l'encontre de Matata est déjà enclenchée. Tous ceux qui sont concernés dans la débâcle du parc agro-industriel de Boukangalons ont comparu, sauf lui. Toujours d'après nos sources, le procureur général près la Cour constitutionnelle n'est pas soumise à une récusation des justiciables, car il s'agit d'une institution qui ne relève pas des juridictions de l'ordre judiciaire. D'où cette question de l'opinion publique. Matata Mponyo sera-t-il jugé ou pas ? Réponse conformément à la Constitution avec deux juristes. D'abord avec le professeur de droit à l'UNIKIN, Léopold Kondaloko.
Tous les Congolais sont égaux devant la loi. Matata Mponyo, on les poursuit pourquoi? En tant que citoyen congolais d'abord, ensuite il a été premier ministre pour avoir géré ce pays. Alors, lorsque vous commettez des infractions, la Constitution l'a si bien dit, à l'article 163, que la Cour constitutionnelle est la juridiction pénale du chef de l'État et du premier ministre dans les cas et conditions prévues par la Constitution. L'article 164 dit ceci. La Cour constitutionnelle est le juge pénal du président de la République et du premier ministre pour des infractions politiques, des hautes trahisons, d'outrage au Parlement et pour les autres infractions de droit commun commises dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de leur fonction. Point. Et lorsqu'il y a une erreur, il faut corriger. C'est à tort que le premier arrêt de la Cour constitutionnelle a dit que Matata Mponyo n'était pas justiciable devant la Cour constitutionnelle, c'est à tort.
On écoute cette fois les explications de Maître Willy Wenga, avocat au barreau de Kinshasa Gombe.
Le sénateur Matata n'est pas encore jugé jusque-là parce que le procureur général de la Cour constitutionnelle qui l'avait poursuivi dans un premier temps avait saisi la Cour constitutionnelle. Celle-ci s'était déclarée incompétente à juger un ancien premier ministre. Maintenant que le procureur général de la Cour constitutionnelle vient de relancer le dossier Matata, il est fort à croire au regard de la réponse du Sénat que le procureur général de la Cour de cassation va l'entendre, éventuellement va refixer l'affaire devant la Cour constitutionnelle, cette fois-ci devenue compétente et à ce niveau-là. Et je suis sûr et certain que sauf d'autres moyens de forme, la Cour constitutionnelle va le juger au fond et il pourra soit être condamné, soit être acquitté. Tout s'est passé de telle sorte que on était arrivé à un niveau où M. Matata était resté impuni ou n'avait pas connu encore son sort quant au fond du fait qu'il n'avait plus de juridiction compétente pour le juger. Mais la Cour constitutionnelle avait tranché là-dessus pour que nul ne soit au-dessus de la loi, que nul ne reste sans être poursuivi, quel que soit ce qu'il occupait comme fonction.
Ce dossier a été réalisé par Jeff Ngoy. À Kananga, depuis hier vendredi, le chef de l'État a lancé les travaux du projet d'urgence pour la résilience urbaine de Kananga. À hauteur de 100 millions de dollars américains, ce programme est financé par la Banque mondiale. Sous la supervision du ministère de l'Urbanisme et Habitat, les projets visent à lutter contre les érosions qui menacent la ville. Les travaux seront exécutés par l'Office de voirie et drainage à la suite d'un protocole d'accord signé avec l'unité de gestion du projet. François Kadima nous en parle.
Kananga est menacé par plusieurs têtes d'érosion. Pour ne pas voir cette ville disparaître, le gouvernement congolais a sollicité et obtenu de la Banque mondiale un financement de 100 millions de dollars américains dans l'objectif de mettre fin aux têtes d'érosion dans ces chefs-lieux du Kasaï central. D'après la vice-présidente de la Banque mondiale, ce projet va intervenir premièrement sur trois sites qui menacent de détruire les habitations et les infrastructures de la ville. Victoria Kwakwa.
Les érosions mettent en danger des infrastructures de connexion essentielles, y compris le chemin de fer, l'aéroport et la route nationale numéro 1.
Selon le chronogramme, ces travaux dureront 7 mois. Une occasion pour le ministre d'État à l'urbanisme Habitat, qui assure la tutelle du projet, d'appeler à la responsabilité de la population en s'appropriant ce programme. Pius Mabilo.
Je persuade chacun de nous à protéger et à bien conserver notre environnement, ce qui nous éviterait de dépenser beaucoup moins les moyens financiers, lesquels auraient dû servir à financer d'autres investissements socio-économiques de base.
Notons que dans la suite du président de la République, l'on note également la présence du vice-premier ministre de l'économie Vital Kamerhe et du ministre des Finances Nicolas Kazadi. De Kananga, François Kadima, Radio Kapi.
Sud Kivu, la route qui relie la ville de Bukavu au territoire de Shabunda devient de plus en plus praticable. L'office des routes a déjà travaillé plus de 140 km pour désenclaver les territoires les plus vastes de la province du Sud Kivu. Le gouverneur de cette province s'en est rendu compte jeudi dernier. La population locale demande que ces travaux atteignent Shabunda Centre. Emmanuel Elamejo Kabidi pour plus de détails.
C'est plus de 140 km de la route Bukavu-Bura-Lengolombe à Shabunda qui sont désormais praticables. L'Office de route Sud Kivu poursuit les travaux sur ces tronçons. Anissé Kakese, directeur provincial de l'Office de route.
Sur ce tronçon, on fait la réouverture. C'est-à-dire la route était complètement abîmée. On ouvre, on recharge, on reprofile. La route était pleine de bourbiers, les gens ne passaient plus. Maintenant, nous sommes en train de travailler pour que les gens aient la facilité d'arriver à Kigurube. Les difficultés, le matériel vieilli, que le président pense à nous pour nous les renouveler.
Le gouverneur du Sud Kivu s'en est rendu compte jeudi 22 juin pour savoir si un véhicule peut rouler de Bukavu à Shabunda.
J'ai tenu personnellement à venir inspecter les travaux. Cela montre une fois de plus l'attachement du président de la République pour sa population de Shabunda. J'avais promis à la population de Shabunda que je quitterais Bukavu jusqu'à Shabunda Centre. C'est une injustice depuis des 40 ans qui doit être réparée. Vous savez que Shabunda, c'est le territoire le plus grand du Sud Kivu. Shabunda regorge des produits agricoles. Shabunda regorge des gisements miniers. Et pour faire développer les sites Kivu, il n'y a qu'une seule voie, c'est réhabiliter la route qui va jusqu'à Shabunda Centre.
La réouverture de cette route réjouit plus d'un habitant du territoire de Shabunda. La deuxième phase prévoit d'atteindre Shabunda Centre, plus de 350 km de Bukavu. Emmanuel Elamijo Kabedi, Bukavu Radio Kapi.
Rendons-nous dans les territoires de Lubero, au nord Kivu, où la société civile locale alerte sur la dégradation du tronçon routier Butembo-Kanyabayonga sur la route nationale numéro 4. Des érosions et ponts à risque d'effondrement sont observés sur cet axe routier long d'environ 150 km. Selon le président de cette structure citoyenne, cette situation risque de provoquer le pourrissement de certains produits agricoles évacués de Lubero vers d'autres localités à travers la route Butembo-Kanyabayonga. Jose Katsongo appelle à l'évaluation des travaux d'entretien de cette route. Il est au téléphone de Martial Papimukeba.
Le trafic a été coupé jusqu'à ce que l'on mette des bacs ou traverser avec beaucoup de risques. Et le transport a été très cher, mais aussi on a observé à la hausse des prix des produits manufacturés qui proviennent de Butembo, mais aussi des produits à provenance de Mangurejipa, notamment les riz, l'huile de palme, les planches et beaucoup d'autres produits avaient des difficultés à être évacués de Mangurejipa pour Butembo. Cela a imposé la population de la contrée de Mangurejipa à une pauvreté notoire. Et ce pont qui vient d'être jeté, un pont moderne, va soulager la population sur tous les plans, le plan social et le plan économique, raison pour laquelle, disons merci aux autorités gouvernementales qui ont songé à la population de l'axe Butembo-Mangurejipa qui a souvent été oubliée et victime de beaucoup de problèmes, mais aussi à la société de services Viumbira qui a matérialisé ce projet.
Le 24 juin, c'est la journée nationale de la pêche. À cet effet, Radio Okapi amorce une série de reportages sur ce secteur. La pêche des captures dans les poules Malebo de Kinshasa est devenue de nos jours une activité peu rentable pour les pêcheurs artisanaux. En dehors de la forte demande, la pratique de la pêche illégale et non réglementée sont les causes majeures de la rareté des poissons de capture dans les poules Malebo, selon la coopérative de pêche et de commercialisation des poissons, COPECOP. Des détails dans ce reportage de Tati Mapoukou.
Il y a eu une rareté accrue de poissons dans le pool Malebo. Les causes de cette pénurie des poissons dans le pool Malebo sont connues avec par exemple la construction de la cité du fleuve au bord du fleuve Congo. Il y avait dans cette zone humide et marécageuse des nids de reproduction de poissons dans le pool Malebo depuis Kintsuka jusqu'à Ntili.
C'est le cri d'alarme de ces pêcheurs artisanaux interviewés dans les ports des pêcheurs artisanaux de Kingabwa, non loin de la cité du fleuve. En RDC, la pêche des captures s'exécute différemment d'une région à une autre. Ce secteur n'est pas encore professionnalisé, d'après Dr Gabriel Kombozi, directeur de la direction de la pêche et aquaculture au ministère de la pêche et élevage.
La pêche s'exécute de différentes façons. Ceux qui sont dans la mer, dans les océans, dans les lacs, ils ont leur façon de pêcher par rapport à ceux qui sont dans les rivières. Bon, l'état de lieu est qu'aujourd'hui, nous sommes encore dans la pêche traditionnelle.
Environ 15 000 personnes pratiquent la pêche artisanale dans les poules Malebo sur une dizaine de sites, notamment Kinkole, Kingabwa, Gombe, Ngamanjo, Kintsuka, selon les statistiques de la coopérative de pêche et de commercialisation des poissons, COPECOP en sigle.
Actualité internationale.
Élection générale en Sierra Leone, un jour de vote marqué par la crainte des violences. Quelques 3 millions d'électeurs sont appelés aux urnes ce samedi pour choisir leur nouveau président, parlement et conseils municipaux. Le président sortant Julius Maada Bio brigue un second mandat face à 12 autres candidats. Mais le match va se jouer entre lui et son principal adversaire, Samoura Camara, l'homme qu'il a battu de justesse il y a 5 ans. Au Sénégal, code électoral, Ousmane Sonko, troisième mandat. La commission du dialogue national sénégalais rend ses conclusions. Les conclusions du dialogue national au Sénégal seront remises ce samedi au président Macky Sall lors d'une cérémonie prévue à 16h, temps universel.
L'invité
de ce journal est l'inspecteur principal de la province éducationnelle Tanganyika 1. Jean-Pierre Soumbou parle des préparatifs de l'édition de l'examen d'État 2022-2023 dans son secteur. C'est dans un entretien avec Paulin Mounanga.
Monsieur l'IPP Jean-Pierre Soumbou, bonjour.
Bonjour.
Vous venez de rencontrer ce vendredi les chefs d'établissement scolaire ici à Kalemie. Qu'est-ce qui a été au centre de cette rencontre?
Il fallait stigmatiser sur le fait qu'il y a certains chefs d'établissement qui se caractérisent par des antivaleurs. C'est-à-dire, ils monnaient les points scolaires, les A13, et les maquis pour certains les phénomènes suivis, alors que ces phénomènes n'existaient pas.
C'est-à-dire?
Ils demandent l'argent aux enfants pour faire le suivi. Et il y a même certains qui vont au-delà de ce que l'arrêté du gouverneur a fixé comme frais de participation. Disant pour l'organisation matérielle, on ne sait qu'il s'agit de quelle organisation matérielle, au moment où l'inspection donne tout entre les mains du chef du centre.
Faire les suivis pour faciliter la réussite de l'élève.
Entre guillemets, pour la réussite des enfants, alors que ces chefs d'établissement sont ici à Kalemie, au Tanganyika en général, ils ne vont jamais à Kinshasa. Si eux-mêmes ne se déplacent pas, je ne sais par quel moyen ils font ce genre de suivi.
Mais vous avez aussi parlé des maquis qui sont interdits. Pourquoi cela a été interdit?
Puisque réellement, quand on parle de maquis, il faudrait voir dans le temps quand les gens allaient dans les maquis, les filles et les garçons sont ensemble et au lieu d'étudier, c'est surtout de la musique, de ceci, de bêtises qui se font, ce sont des antivaleurs. Au lieu qu'ils aillent étudier, les études se font à l'école. Si les enfants peuvent venir à l'école, préfèrent des préparations et rentrer chez eux, ça va, mais pas dans des maquis internes. Et d'ailleurs, vous savez que dans notre province éducationnelle, la plupart des parents sont pauvres. Dans ces maquis, ces enfants vont manger quoi. Et quand les enfants ne mangent pas, surtout les enfants filles, quand elles n'ont pas assez d'argent, elles vont se prostituer. C'est ainsi que ces maquis sont interdits.
Est-ce qu'il vous est déjà arrivé de mettre la main sur certains chefs d'établissement qui sont en train de cautionner ces genres d'antivaleurs?
Non, nous martelons simplement. Jusqu'à preuve du contraire, nous ne sommes pas tombés sur un chef d'établissement. Mais nous martelons pour que ça ne leur vienne pas à l'esprit. Ils doivent éviter tout cela. Mais c'est dans le temps. Quand nous sommes arrivés, nous avons découvert qu'il y a beaucoup d'élèves qui réclamaient leur diplôme, à l'époque où il n'y avait pas la numérisation. Parce que le chef d'établissement pourra poser la signature soit sur la fiche, soit sur les A13 et demander de l'argent aux enfants. C'est ainsi que beaucoup d'élèves n'ont pas eu reçu de diplôme, les fiches n'étant pas parties à Kinshasa. Et il y a même d'autres antivaleurs. Puisque nous nous conformons à l'arrêté du gouverneur, les parents payent, mais le chef d'établissement bouffe. Je vous donne l'exemple de Tembo. Nous sommes à la recherche d'un chef d'établissement de Tembo, là où il avait le conflit pygmée bantou. L'argent de tenants suspects, il est porté disparu avec tout l'argent de tenants suspects payé par les enfants.
Depuis quand?
Depuis la semaine passée, il est porté disparu avec tout l'argent de tenants suspects.
Ce chef d'établissement de Tembo avait disparu avec quel montant?
Avec plus ou moins 3 millions de francs congolais.
Ça fait beaucoup de temps que vous menez cette lutte contre les antivaleurs. Vous êtes-vous rendu compte que cette lutte a finalement apporté des fruits?
Oui, cette lutte a apporté des fruits puisque maintenant les chefs d'établissement ont peur. Même dans le premier temps, le chef d'établissement de primaire qui demandait l'argent alors qu'il a la gratuité ont été sanctionnés. Et même au niveau national, ils ont été sanctionnés. Et c'est ainsi que maintenant tout le monde a peur. Puisque les antivaleurs, tant que nous existerons, il y aura toujours des antivaleurs. Et il faudra toujours marteler pour que ces antivaleurs disparaissent. Et il faudrait toujours rappeler aux chefs d'établissement quelles lignes de conduite doivent suivre. Que tous puissent se conformer aux prescrits, aux normes édictées par notre ministre de l'EPST, Maître Tony Mwabakaza. Donc, qu'il lutte, chaque fois il a fait des antivaleurs, sa lutte de journalière.
Avez-vous un message particulier à lancer aux élèves qui vont présenter les épreuves de l'examen d'État à partir de ce lundi?
Qu'ils ne craignent rien. Ce n'est pas la fin de la vie. C'est un examen comme tout autre examen. Et qu'ils ne se fient jamais à ce qu'on leur dise, voici si on gonflait le point de A13, vous allez réussir. Si on faisait le suivi, vous allez réussir. Si il y a des labos, vous allez réussir. Donc, qu'ils bannissent toutes ces antivaleurs, qu'ils ne se fient pas à toutes ces antivaleurs. Puisque ça ne rapporte rien, c'est le contraire, ça les enfonce de plus en plus. Et vous connaissez vous-même qu'il y a des provinces où il y avait la tricherie, où son excellence, monsieur le ministre, avait pris des mesures pour annuler ces examens. Et les enfants étaient obligés de reprendre l'examen. Donc, qu'ils ne se fient pas à ça. Qu'ils travaillent avec leur propre intelligence, qu'ils se fient à eux-mêmes, et Dieu aidant, ils vont recevoir leur diplôme.
Monsieur l'IPP Jean-Pierre Nsumbu, je vous remercie.
Merci beaucoup, monsieur le journaliste.
C'était l'invité de ce journal, l'inspecteur principal de la province éducationnelle Tanganyika 1, Jean-Pierre Nsumbu, était à Kalemi avec Paul Mounanga. Fin de cette édition qui a été coordonnée et supervisée par Alain Irung. La technique a été assurée par Polydor Basunga. Merci de continuer à les réécouter sur toutes les plateformes digitales des Radio Okapi.